Aujourd'hui, je vais aborder un sujet un peu différent avec vous. En fait, c'est une question qu'on me pose souvent ou qui revient souvent, en fait, quand je croise des gens. C'est est-ce que le minimalisme est vraiment fait pour tout le monde? Et ça m'a un peu percutée parce que j'ai eu la newsletter, en fait, de Joshua Baker, qui est Becoming Minimalist. Et justement, il a parlé un peu de ce sujet-là et ça m'a interpellée parce que je me suis rendu compte que moi aussi, la question m'arrivait souvent. Et aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler dans l'épisode 6 du podcast de Marisol la Minimaliste.
T'as l'impression que ta maison ne te ressemble plus. T'as la sensation d'étouffer dans tes objets perdus. Tu n'es plus bien chez toi, t'as envie de fuir ta demeure. T'as beau soigner ton extérieur, tu craques à l'intérieur. Ton espace est plein d'objets inutiles. Le podcast de Marisol va rendre ta vie plus facile. Marisol, la minimaliste, elle épure ton univers et rend ta vie plus simpliste.
Alors, bienvenue à tous à l'épisode 6 du podcast de Marisol la Minimaliste. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler justement de cette question-là. Est-ce que le minimalisme, c'est fait pour tout le monde? Parce que souvent, je me fais dire par des gens « Ah oui, non, c'est cool ce que tu fais, puis j'adore ça, mais c'est pas pour moi. » Et quand j'ai reçu justement l'infolettre de Joshua Baker qui parlait exactement de ce sujet-là, ça m'a vraiment, vraiment fessée. Parce que je me suis dit, ben oui, c'est drôle, les gens pensent vraiment que ce mode de vie-là est permis ou est comme possible pour un type de personne bien précise, mais pas pour tout le monde. Et je me rends compte que ça fait vraiment partie de tous ces mythes qu'il y a autour de ce mode de vie-là. Comme on ne comprend pas bien c'est quoi le minimalisme, et c'est pour ça qu'un des premiers épisodes, c'était vraiment de vous donner ma définition du minimalisme. Et souvent, en fait, tous les questionnements, toutes les choses qui sont en lien avec le minimalisme sont mal interprétées parce qu'on ne comprend pas bien qu'est-ce qu'est vraiment le minimalisme. Alors, les gens qui pensent vraiment que le minimalisme, c'est pas fait pour eux, c'est parce qu'ils ont une mauvaise compréhension de ce qu'est vraiment le minimalisme. Ils vont encore avoir cette notion que c'est vraiment une notion de manque, comme on l'a vu, que c'est une notion d'austérité. Mais aussi, ils vont penser qu'il y a des règles bien précises, que le minimalisme, ça commence à un moment donné, que tu fais un processus, ou que tu l'es même inné, des fois ils pensent que c'est ça, tu l'es, ou que c'est ça, tu commences ton processus et que là, au bout du temps, tu vas arriver à un certain résultat. Mais finalement, c'est pas ça du tout, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de manière de faire, il n'y a pas d'objectif final en tant que tel. C'est vraiment, vraiment de voir c'est quoi que je veux avoir dans ma vie. Et ça, c'est vraiment spécial parce que les gens pensent vraiment que c'est d'arriver à un point où on aura le moins d'objets possible dans notre maison. Alors que c'est vraiment pas du tout ça nouveau, c'est vraiment des mauvaises interprétations de ce que peut être le minimalisme. Et souvent, c'est un peu dû aussi à notre société que quand on a parlé les premières fois de minimalisme en tant que tel, c'était souvent dans le côté artistique. Donc c'était en fait, on le voyait des peintres, on a vu aussi dans l'architecture qu'on a eu l'architecture minimaliste qui était très épurée. On parle beaucoup du Bauhaus aussi qu'on a vu en Europe. Et c'est vraiment des formes très carrées, très austères, avec très peu de choses, très très épurées. On va voir des toiles que c'est un carré noir sur fond noir ou des choses comme ça. Donc il y a eu un gros mouvement, en fait, à ce niveau-là, qui était vraiment très, très, très épuré. Et c'est ça qui était le mouvement, en fait, artistique, qui s'appelait le minimalisme. Et on est resté un peu accroché à cette notion-là du minimalisme, que c'était vraiment épuré à l'extrême, avec rien du tout. Et que c'était, du coup, aussi dû... Fait que c'était permis à une certaine catégorie de personnes qui pouvaient avoir, en fait, ces choses-là. Le Bauhaus, le minimalisme, le mode de vie minimaliste et l'art, en fait, minimaliste, était vraiment considéré que c'était des personnes riches qui pouvaient avoir accès à ça parce que c'était des affaires modernes, c'était nouveau. Alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Il y a cette espèce de dissonance aussi ou de décalage, en fait, par rapport à la réalité. C'est que le minimalisme, c'est en fait simplement mettre en avant ce qui est le plus important pour nous. Là, je vais vous donner la définition vraiment que Joshua Baker donne dans l'article de blog que j'ai lu. Il dit « Le minimalisme, c'est posséder uniquement les choses qui vous permettent d'accomplir vos plus grands buts et rêves dans votre vie. » Donc, c'est ça, là, et c'est de mettre de l'avant les choses qui ont le plus de valeur en enlevant tout ce qui nous détourne de ses buts et de ses rêves. Donc, ce n'est pas justement de vivre avec rien et ce n'est pas permis à seulement une catégorie de la population, à une catégorie de type de personne. Souvent, justement, on va penser aussi, j'entends en fait des choses que je vais vous dire que moi je vois ou que j'entends directement, c'est les gens me disent « Ah, mais moi je serais jamais comme toi, Marisol, je pourrais jamais me rendre à ce niveau-là. » Mais je leur dis « Bien, tant mieux, j'espère que tu te rendras jamais à comment moi je suis, parce que tu vas être malheureuse, parce que moi, j'ai mon niveau de minimalisme et j'ai les choses autour de moi qui m'apportent de la valeur à moi. Si tu me prends comme modèle pour simplement me dire « il faut exactement que ma vie soit comme la mienne », bien là, vous allez vraiment vous tromper parce que le but, c'est pas que vous ayez la même vie que moi, que vous ayez le même appartement que moi ou les mêmes objets dans votre appartement que moi. Au contraire, c'est à vous de déterminer c'est quoi que vous avez besoin autour de vous. Donc moi, à chaque fois que je réponds aux gens comme ça, mais qui me disent « ben là, moi, je ne serai jamais comme toi, je ne me rendrai pas comme toi ou je n'aurai pas le même environnement que toi », je leur dis « ben j'espère que tu ne feras pas ça ». Parce que dans le fond, ce serait complètement l'opposé, ça n'aurait aucun sens de faire ça. Le but, c'est vraiment que vous trouviez votre équilibre, votre manière de vivre, les choses qui sont importantes pour vous et à ce moment-là, vous allez vivre un mode de vie minimaliste. L'autre chose que j'entends aussi souvent, c'est que, ah, écoute, les personnes nostalgiques ou émotionnelles ou empathiques comme moi, bien, on ne peut pas être minimaliste parce qu'on a trop d'attachement avec nos objets, on les aime, puis ça nous rappelle des choses, donc on ne peut pas être minimaliste. Alors là, non plus, je ne suis pas d'accord avec ça parce que ça voudrait dire que moi, je serais une personne froide, distante, sans émotion, puis que j'aurais rien de tout ça autour de moi. Pas du tout. Moi, les objets que j'ai autour de moi dans ma vie, je les aime aussi parce qu'ils m'apportent quelque chose, parce qu'ils sont un bonus dans ma vie. Donc, ils m'apportent de quoi de positif, j'ai le droit de les aimer. Mais par contre, ce ne sont pas eux qui me possèdent, c'est moi qui décide s'ils font partie de ma vie ou non. Donc, c'est ça la différence. Et c'est pas parce qu'on est une personne émotive ou nostalgique qu'on ne peut pas vivre ce mode de vie-là, c'est simplement de choisir de nouveau c'est lesquels d'objets qui nous rappellent des bons souvenirs, c'est lesquels de choses qu'on veut garder autour de nous. J'ai un exemple là, d'une personne justement qui est retombée, qui va se reconnaître, qui est tombée sur des scrapbookings de recettes de sa grand-mère et qui finalement dit « Oh my God, alerte, alerte, nostalgie, émotion, c'est les affaires de ma grand-mère et tout. » Puis là, j'ai fait « Oui, c'est cute, vraiment, c'est le fun, mais... » Toute la gang a été capable de lui dire « Mais là, est-ce que tu les savais que tu les avais? Est-ce qu'ils étaient dans ton armoire? Est-ce que tu savais que tu avais ces choses-là? » « Ah non, pas vraiment. » Moi, j'ai demandé « Est-ce que tu fais de la cuisine? Est-ce que tu aimes ça cuisiner? » Il me semble que non. Donc, pourquoi est-ce que tu garderais le livre de recettes? Elle me dit « Ah, ouais, je me suis fait prendre, en effet. » Donc, vous voyez, c'est juste de ramener les choses, en fait, à être relative, à se dire « Est-ce que vraiment cet objet-là, qui, oui, va nous ramener une émotion, qui va nous ramener une nostalgie peut-être d'une personne et tout, mais est-ce que l'objet en tant que tel doit vraiment faire partie de notre vie? » Non, ça ne va pas effacer l'émotion qu'on a pour notre grand-mère. La personne en question, si elle décide de ne plus garder les scrapbookings de recettes, elle ne sera pas une mauvaise personne pour autant, puis elle n'aura pas effacé sa grand-mère de sa mémoire ou de son cœur. Donc, de nouveau, ce n'est pas parce qu'on est une personne émotive et tout ça que on n'a pas le droit d'être minimaliste. On peut aussi choisir lesquelles d'émotions qu'on veut garder dans nos vies, lesquelles d'objets qu'on veut garder qui vont vraiment nous apporter une belle émotion, qui vont être justement le fun, parce qu'une personne émotionnelle et empathique va être très empreinte à ressentir ce qu'il y a autour d'elle. Donc, si tout ce qu'elle ressent autour d'elle est vraiment pesant et comme lourd, qui va vraiment être en fait la submerger, eh bien, même si justement c'est les objets de plein de personnes qu'elle aimait, ça va être beaucoup trop et elle ne pourra pas vivre bien ses émotions. Donc, le but, c'est vraiment de juste garder les bonnes émotions autour de nous. Et non, les gens qui sont minimalistes ne sont pas des gens complètement froids, sans cœur, qui ne vivent pas d'émotions, qui ne sont pas empathiques. Au contraire, mais on décide de qu'est-ce qu'on veut avoir comme émotion dans nos vies et quels objets vont nous rapporter certaines émotions ou non. et on est beaucoup plus en contrôle de ces émotions-là. On les comprend, on ne les subit pas, on ne se laisse pas submerger par l'émotion. On arrive justement à plus être rationnel un peu et vraiment à vivre les émotions, mais de manière plus douce, plus en bienveillance également, et à les contrôler un petit peu plus, à les gérer. Je ne vous dis pas que je suis la meilleure gestionnaire de mes émotions. Moi aussi, des fois, j'ai des colères. Moi aussi, des moments, je suis émotive. C'est normal, on est des humains. Et le but du mode de vie minimaliste, ce n'est pas de faire de nous des robots. C'est simplement d'épurer, de pouvoir simplement nous concentrer sur ce qui est vraiment, vraiment important pour nous puis qui va vraiment nous faire du bien, puis qui va vraiment nous amener des émotions positives. Donc, le mode de vie minimaliste peut très bien être appliqué par des personnes qui sont très émotives, empathiques et qui aiment les émotions parce que justement, ils vont souvent se détacher de certaines émotions qui étaient plus nécessaires et laisser la place à d'autres qui vont leur faire beaucoup plus de bien. Une autre chose qu'on me dit souvent dans mon quotidien et que je trouve drôle aussi, c'est « oui, mais moi, je suis une personne créative. Les créatifs, les artistes, tu sais, on est toujours bordélique, c'est normal qu'on ait plein d'affaires, on a besoin de plein de trucs au cas où que... » Puis tout ça. Puis là, je suis comme « ah, intéressant comme point également » parce que souvent, on associe en fait créativité à avoir beaucoup de stimulation. Et on le voit même aussi pour les enfants, dans les jeux d'enfants, les affaires d'en même, on se dit que pour rendre quelqu'un créatif, on va devoir le stimuler et énormément, lui donner plein de jeux, plein de couleurs, plein d'affaires pour que justement ça lui développe sa créativité. Alors qu'il est prouvé que c'est totalement l'inverse. Si une personne qui va être créative, oui, va avoir besoin d'affaires, va partir dans sa tête, va peut-être pas être une personne la plus structurée au monde. Mais si elle est embourbée, ça va nuire à sa créativité. Et là, encore une fois, j'ai des exemples concrets et les personnes vont se reconnaître sûrement aussi, mais c'est des gens que j'ai accompagnés qui avaient justement des ateliers et que là, quand on se retrouve dans un atelier qui est tellement embourbé qu'on n'arrive même plus à rentrer dedans parce qu'on a acheté tellement de choses pour plein de projets, parce qu'on a plein d'idées, qu'on a vu plein de choses sur Pinterest, puis qu'on veut tout faire, eh bien finalement, qu'est-ce qui arrive? C'est que oui, on a tout le matériel, oui, on a tout autour de nous, mais on est tellement désorganisé, tellement déstructuré qu'il y en a tellement bien, qu'on ne sait pas par quel projet commencer, qu'on n'arrive même pas à s'asseoir à notre atelier pour pouvoir vraiment être créatif. Parce que tout ce qui nous entoure finalement nous stimule tellement, nous surstimule et nous empêche d'être créatif, nous empêche d'avoir cette émotion justement de créativité qui va monter en nous parce qu'elle n'a pas de place. Parce qu'autour de nous, c'est tout embourbé. Et quand on a fait pour ces personnes-là, qu'on a désencombré les ateliers, eh bien, qu'est-ce qui est passé? C'est des personnes qui, depuis des années, n'avaient pas créé, n'avaient pas rien fait, qui finalement, quand les ateliers se sont libérés, ont pu se remettre à faire la chose qu'ils aimaient, à créer, parce que l'espace avait été libéré, parce que justement, ils avaient de nouveau accès à leur matériel et qu'il y avait une certaine structure. Donc non, moi, je ne suis pas d'accord de dire que les personnes créatives ne peuvent pas vivre le mode de vie minimaliste non plus. Et au contraire, ils devraient essayer justement de d'épurer autour d'eux parce que ça va laisser beaucoup plus de place à leur créativité et pour qu'elles puissent justement sortir d'eux et se transposer sur leur projet. Donc, pour ces petits exemples que je vous donnais simplement comme ça, j'en croise plein d'autres encore dont on pourra reparler également. J'ai une invitée qui va venir aussi nous parler bientôt du TDAH aussi de l'adulte et que souvent les gens qui sont TDAH aussi vont acheter beaucoup d'affaires, vont avoir plus de stock, du stock en double, en triple, au cas où qu'ils oublient et tout ça, alors que ça les nuit encore plus que les gens qui sont TDAH devraient essayer d'embarquer dans un mode de vie minimaliste parce que ça simplifierait beaucoup leur routine. Mais on reparlera de ça plus en détail un autre moment donné. Mais il y a plein de gens comme ça qui pensent, qui ont cette fausse croyance, en fait, que le mode de vie minimaliste, c'est pas pour eux. Et parce qu'ils pensent que c'est un mode de vie qui est très restrictif, qui est très compliqué, enfin, pas compliqué, mais qui est très demandant à gérer, que ça prend énormément d'énergie de le faire. Oui, ça en prend au début, je le cacherai pas, là, que quand on commence un processus de désencombrement, c'est pas forcément facile. Mais plus on avance dans le processus, plus on va découvrir des choses sur nous et plus on va faire de la place pour les bienfaits de ce mode de vie-là. Et Les bienfaits, ben, c'est de se sentir beaucoup plus libre, de ne pas être possédé par nos objets, parce qu'on pense qu'on possède nos objets, mais ce sont nos objets qui nous possèdent. C'est d'avoir de la place, en fait, pour vos buts, vos rêves, parce que souvent, qu'est-ce que j'entends, c'est « Ah oui, mais j'ai pas le temps, je ferai ça plus tard. » Mais on n'a pas le temps, pourquoi? C'est quoi qui prend cette place-là, qui fait qu'on peut pas faire les choses qu'on a vraiment le goût de faire dans nos vies? C'est avoir plus de temps, beaucoup plus de temps pour réaliser ses buts et ses rêves. Parce que oui, si vous passez votre temps à courir après votre queue pour essayer de gérer votre maison, pour gérer tous ces objets-là, pour être dans ce cercle vicieux de la surconsommation, ben non, vous n'aurez pas de temps pour réaliser vos rêves ou vos buts ou vos objectifs. Et au bout du compte, c'est d'avoir une vie plus calme, plus sensée, plus posée, avec moins de stress pour simplement pouvoir profiter de la vie, pour pouvoir vivre à chaque jour et puis avoir du fun dans vos vies et d'être simplement heureux. On le ramène tout le temps à ça, mais ça peut avoir l'air niaiseux, mais c'est vraiment ça, c'est de se rendre compte que notre environnement, ben oui, il a un impact, puis que souvent on le remplit de plein de choses qui sont pas utiles puis qui nous détournent tellement de ce qui est vraiment important et ce qui est le bonheur. Donc, est-ce que le minimalisme est fait seulement pour un type de personne? Non, je ne pense pas. Je trouverais ça plate que vous vous priviez, en fait, que les gens se privent de tous ces bienfaits-là en ayant simplement de fausses croyances, en pensant, en ayant une fausse idée de ce qu'est vraiment le minimalisme. Alors, j'espère qu'avec ces petits exemples, ça vous a montré un peu que le minimalisme est fait pour tout le monde, que tout le monde a le droit à ce bonheur-là, a le droit de trouver son équilibre et son essentiel, et que c'est accessible aussi à tout le monde. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est accessible. Donc, je vous laisse aussi sur cette réflexion. Si jamais vous voulez commenter, vous voulez partager, bien, mettez vos commentaires en dessous du podcast. Ça va me faire plaisir de discuter avec vous plus en détail de ça ou d'avoir vos avis sur la question. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.
C'est le chaos dans ton organisation résidentielle. T'es enseveli, englouti de matériel non essentiel. Ça te prend un processus de désencombrement. L'approche de Marisol est compréhensive sans jugement. Ton espace est plein d'objets inutiles. Les conseils de Marisol vont rendre ta vie plus facile. Marisol, la minimaliste, elle épure ton univers et rend ta vie plus simpliste. Marisol minimaliste.